Moi, je n'entends rien.
Eh bien, table ovale sans ellipse, table ovale sans ellipse depuis Rodez. Il est donc encore temps de présenter nos meilleurs vœux, de souhaiter une bonne année à tous nos auditeurs, à tous les électeurs, parce que cette année, ça va être une année chargée pour nous, pour table ovale, pour les participants. Et donc, table ovale sans ellipse autour de Claude Devezin, qui ce soir réunit Jean-Albert Bessière du Parti communiste français, Christian-Emmanuel Gros du Modem, Jean-Philippe Sadoul de l'UDI, l'Union démocrate indépendant, et Guy Sériès pour le parti de gauche. J'observe que je reçois deux couples d'une certaine manière, puisque vous êtes au moins paxés les uns et les autres, parti de gauche et parti communiste dans le front de gauche, et UDI Modem, je ne sais pas encore dans quoi.
Dans l'alternative.
Mais en même temps, on a vu vos leaders se congratuler il y a peu. Notre sujet de ce soir s'inspire, puise dans la riche conférence de presse de notre président de la République, que je vais me faire un plaisir de citer exactement. Notre organisation territoriale devra être revue. Les collectivités locales seront invitées à se rapprocher. Des incitations fortes. Les dotations de l'État varieront selon les regroupements qui seront faits. Il n'y a pas de raison que le nombre de régions dans quelques années reste le même qu'aujourd'hui. Des grandes aires métropolitaines devront redéfinir leur avenir, en finir avec l'enchevêtrement des différents niveaux de collectivités et clarifier plus strictement leurs compétences. Les régions se verront confier un pouvoir réglementaire d'adaptation. Je précise d'ailleurs que pour ce qui est de l'enchevêtrement des financements, la loi qu'a confirmé le Conseil constitutionnel avant-hier, la loi de modernisation d'action publique et d'affirmation des métropoles, reprend encore les financements croisés en indiquant toutefois qu'il y aurait un chef de file qui serait plutôt la région. Et donc ma première question à mes invités, c'est que voit-il, qu'imagine-t-il que peut-être un regroupement qui verrait arriver davantage de financement? Est-ce que ça veut dire que Barraqueville, par exemple, aura plus de financement que la Primaube, puisque Barraqueville est le résultat d'une fusion de communes? Monsieur Bessière.
Oui, pour répondre à ces questions, il faudrait d'abord savoir ou s'expliquer sur pourquoi l'État aujourd'hui transfère ou veut modifier les collectivités territoriales et leur niveau. Tout simplement, je crois qu'il est en train de ramener la dette de l'État, qui est de la dette de l'État, à de la transférer au niveau des collectivités locales, que ce soit la région, le département ou les communes, voire les agglomérations, les communautés de communes. Et c'est dans ce cadre-là qu'on avance des idées comme de rassembler, de regrouper un certain nombre de collectivités. Alors je ne crois pas que c'est pour leur donner plus d'argent, moi. C'est pour...
Vous doutez de ce que dit le président de la République.
Je suis sûr qu'il n'y aura pas plus d'argent, puisque on est dans des phases de mise en place de budget aujourd'hui, et on s'aperçoit bien que, de toute façon, les baisses de dotation de l'État sont en train de diminuer. Et comme il avait prévu de la diminuer encore plus dans les années qui viennent, on va, même si on regroupe, il y aura la prime à celui qui court le plus vite pour avoir du argent s'il regroupe. Ça s'est fait alors dans le temps, hein, je crois, pour les districts ou les trucs comme ça s'est fait. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui ce soit au goût du jour. Il faut qu'il trouve 50 milliards pour faire face au pacte, en plus de ce qu'il a déjà donné, trouver 50 milliards de plus dans le cadre des économies pour payer le pacte de responsabilité. Et il a dit qu'il ne les prendrait pas sur les ménages, ce que je ne crois pas non plus. Voilà, je suis persuadé qu'il n'y aura pas un centime d'euro de plus aux collectivités territoriales. Voilà pour l'instant en guise d'entrée en matière.
Monsieur Sadoul, qu'est-ce que vous voyez comme possibilité de regroupement pour recueillir davantage d'argent de l'État? Ou est-ce que vous êtes aussi pessimiste
que
monsieur
Bessière? Est-ce que vous y croyez, monsieur Sadoul? Je suis ni optimiste ni pessimiste, simplement essayer d'être réaliste aujourd'hui. D'abord, on vit dans un pays où le principe constitutionnel, c'est l'article 1 de la Constitution, repose sur l'organisation décentralisée de l'État, des fonctions de l'État auprès des collectivités territoriales. Il nous appartient donc aujourd'hui de réorganiser, d'adapter ces collectivités en fonction, forcément, quand la Constitution a organisé son territoire, quand elle l'a adapté en 1989 avec la loi de centralisation, la loi dite de fer, où je crois que tout le monde est d'accord sur ces principes de loi aujourd'hui, qui ont évolué en 1999 avec la loi Chevènement, et qui évoluent encore avec ce que propose aujourd'hui le gouvernement. Tout le monde est d'accord pour dire que, bon, on vit dans un contexte économique particulier et difficile. Aujourd'hui, l'État a 2000 milliards de dettes cumulées. Je prends un chiffre. L'an passé, l'État a doté de 1,5 milliard de moins les collectivités locales, dont 840 millions de moins à destination des communes. Ce que je suis d'accord avec Jean-Albert Bessière quand il dit que forcément l'État va tenter de répercuter une partie de ses économies sur les collectivités, le transférer aux collectivités. Donc il nous appartient aujourd'hui de trouver les bonnes solutions, les bonnes réponses pour nous organiser les collectivités territoriales de façon efficace, de façon cohérente. Plusieurs sujets viennent aujourd'hui dans l'actualité. On a parlé de métropole, on a parlé de réorganisation. Alors on peut faire, il existe plein d'amalgames. L'organisation du département, l'organisation des régions, l'organisation des métropoles. L'essentiel étant aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver la bonne logique, la bonne cohérence. Et je crois qu'aujourd'hui, je lisais encore tout à l'heure, 83% des Français ne comprennent pas ce que fait chaque collectivité, font l'amalgame entre les compétences de chaque collectivité. Aujourd'hui, il est bon quand même de savoir qui fait quoi, à quel niveau ça doit se traiter et quelles sont les sommes engagées. Alors vous dire aujourd'hui si Baraqueville a fait le bon choix il y a 40 ans ou 50 ans en regroupant Carcenac et Vors, je pense que c'est un peu dépassé au niveau des dates, parce qu'aujourd'hui Baraqueville a fait un nouveau choix, c'est de venir dans une communauté d'agglo pour espérer, et je pense que ça va être le cas, essayer de trouver un nouveau projet pour un territoire au niveau d'une communauté d'agglomération. Et c'est là où il faut voir l'enjeu, et moi je regrette profondément, je prends l'exemple, quand l'État, le président était Nicolas Sarkozy, donc il avait initié une réforme avec un regroupement de collectivités, notamment au niveau des EPCI, des établissements publics à coopération intercommunale, les communautés des communes ou communautés d'agglomération, ce sujet a été largement sous-traité ou maltraité, je dirais, et donc on est arrivé à un résultat négatif. Et je crois qu'aujourd'hui, encore, et parmi les élus locaux, il n'y a pas encore la prise de conscience nécessaire pour ce grand changement, ce grand sort, je dirais, qui doit s'opérer au niveau de notre pays.
Quand tu vois comment ça s'est passé à la CDCI, quand même, pour regrouper quelques communautés de communes, on est parti à 34 ou 36, on est toujours à 34 ou 36.
L'objectif était de 12 à 16. L'État avait énoncé un principe de 12 à 16 communautés de communes ou comités d'agglomération dans le département de l'Aveyron. Aujourd'hui, nous sommes à 35 ou 36, le fruit du résultat. Donc, quand on va chercher la cohérence et l'optimisation, la mutualisation de l'action publique, parce qu'il faut bien savoir ça aussi.
Et peut-être que les citoyens n'en veulent pas de ça, justement.
Si, ils en veulent. Les citoyens veulent de l'efficacité sur le terrain, et surtout les citoyens, ils veulent de l'efficacité, ils veulent avoir connaissance de ce que fait l'action publique, ce que ça fait au quotidien pour.
Ça, c'est vrai.
Je crois que le débat est vraiment là.
Mais est-ce que ça passe par, justement, des regroupements? C'est pas sûr. Puisqu'on a regroupé jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé à faire passer le message. Je pense que c'est un problème de démocratie qui a mis ça, c'est un autre débat.
Pas forcément, parce que, si je vous suis bien, se regrouper ne servira à rien, financièrement parlant, et en plus, on a du mal à le faire et on n'y arrive pas. Monsieur Sériès.
Je pense que déjà vous avez avancé par rapport à l'introduction tout à l'heure. Nous au parti de gauche, on dit clairement que ce qui est proposé par le président de la République, ce sont avant tout les raisons qu'il invoque. Ce sont des prétextes. Voilà. Quand il dit de regrouper les collectivités territoriales, ça générera beaucoup d'économies, c'est du vent. Voilà. Aujourd'hui, les collèges, les départements, ils s'occupent des collèges, ça marche globalement très bien. Les régions s'occupent des lycées, ça marche globalement très bien. Et si vous regroupez, par exemple, des collectivités entre elles, il faudra toujours les services et le personnel et les moyens pour faire fonctionner les services publics qui incombent aux différentes collectivités territoriales. Alors après, clarifier, simplifier, certainement qu'il faut le faire. Mais en fait, c'est pas ça qui... Honnêtement, c'est pas ça son souci. Hollande, qu'est-ce qu'il veut? Il veut d'abord redéfinir les missions de l'État. Et ce que veut faire François Hollande, c'est se désengager petit à petit de missions de l'État vers les collectivités territoriales. Et quand il parle, par exemple, d'accorder des nouveaux pouvoirs réglementaires aux régions...
Alors on y viendra,
ça symbolise ça, si vous voulez. Ça veut dire qu'au bout du compte, il imagine transférer des compétences beaucoup plus importantes aux collectivités territoriales pour en retirer à l'État. Pourquoi ? Pour essayer de diminuer la dépense publique de l'État, pour répondre aux injonctions de la Commission européenne et des libéraux de tout poil qui disent qu'il faut diminuer la dépense publique. Honnêtement, tout ça, c'est du vent. Qu'est-ce qui compte au bout du compte ? C'est quoi ? C'est les conditions de vie des gens. C'est est-ce que les services publics... rendent des services et assurent une égalité de traitement entre tous les citoyens sur tout le territoire de la République. Et il faut s'en tenir un petit peu au principe. C'est-à-dire que Jean-Philippe Sadoul disait tout à l'heure, la Constitution du pays prévoit que la France est une République décentralisée. Il a raison. La Constitution prévoit aussi que la République française est une et indivisible. Et cela depuis les principes qui ont été invoqués à la Révolution française, où on avait fondé, entre autres, l'organisation, les départements, les communes. Bon. Et là, ce que veut faire François Hollande, clairement, c'est mais c'est pas un peu dans ceux de Nicolas Sarkozy dans la précédente période. Ce que veut faire François Hollande et son rêve, c'est une France façon puzzle. Avec des compétences au gré des bons vouloirs des élus locaux et aller vers un découpage du cadre républicain. Voilà. Et moi, je pose la question de principe qui est d'abord de s'opposer à cette conception-là qui est, voilà, son rêve, c'est ce qui se passe en Espagne, enfin, l'organisation en Espagne, l'organisation territoriale de l'Allemagne, qui ne sont pas du tout des pays comparables à la France. Et moi, pour ma part, je défends l'idée que l'important, c'est que les décisions politiques soient prises par le peuple. C'est le peuple qui est souverain. Et pour cela, il ne faut pas trop éloigner les élus locaux et les lieux de décision des citoyens. Voilà. Et quand on crée les métropoles, quand on propose aux communautés de communes de se regrouper encore plus, ben tout ça, ça éloigne le citoyen de la prise de décision. Et l'organisation telle qu'elle est actuellement, jusqu'à preuve du contraire, n'est pas si mal. Et en tout cas, elle fonctionne beaucoup mieux que les modèles qui nous sont donnés, espagnols ou allemands.
Voilà. D'ailleurs, il y a eu juste, monsieur...
Vous avez des éléments de comparaison ?
Il y a eu un référendum fait un référendum sur le Bas-Rhin et le Haut-Rhin, si je me rappelle bien. Il y a peu, ça fait un an. Les citoyens ont voté, ont participé peut-être pas suffisamment, mais ils ont rejeté la fusion. Ils ont rejeté la fusion des deux départements.
S'il y avait un référendum sur la peine de mort, on a connu d'avance le résultat.
Oui,
qu'est-ce qu'on peut regrouper et que peut-on en attendre d'un regroupement ?
Nous, dans un premier temps, il y a un aspect philosophique, nous sommes attachés à un principe qui s'appelle la subsidiarité, c'est-à-dire qu'on décide au plus près de l'endroit où la chose se déroule. Donc, c'est une décentralisation assez importante. En France, on a un problème, on a parlé de décentralisation tout à l'heure, et en même temps, on est un pays extrêmement jacobin. Ce qui fait que chaque fois qu'on décentralise, on donne un pseudo-pouvoir quelque part et on n'enlève pas le pouvoir à celui qui le détenait en haut. Et effectivement, on a un millefeuille administratif complètement incohérent. Et la question, avant de se poser sur les financements, elle doit se poser sur les compétences. C'est vrai que, globalement, en haut lieu, ils cherchent à enlever au département, c'était le précédent gouvernement, c'est un petit peu celui qu'on voit, à enlever certaines compétences au département, parce que ça fait doublon avec la région, parce que contrairement à ce que dit M. Seriex, il y a des dépenses complètement inconsidérées quand on voit certains hôtels de département, des voitures de fonction et autres, et que si on pouvait éviter toute la gabegie qu'il y a, ça serait un avantage. Maintenant, est-ce que ça servirait mieux le citoyen ? Il faut le voir. Alors, je pensais qu'on parlait de la réforme cantonale aussi. Puisqu'il y a eu...
On a déjà parlé à ce micro.
Oui. Il y en a eu deux.
Une on peut lui autoriser de dire un mot.
Une actuelle. On voit les élus se...
Ils vont s'étriper, d'ailleurs.
Se monter au créneau. Et à chaque fois qu'on veut bouger quelque chose, on s'aperçoit que les forces d'inertie sont plus importantes que les forces de mouvement. C'est une grande difficulté, et aussi bien pour l'aspect financier que pour l'aspect des compétences et de la gestion. Je sais pas, chez nous, dans le Nord Aveyron, on parle de perte des services publics. C'est pas parce qu'on aurait un canton pour quatre qu'on perdrait forcément les services publics.
C'est déjà fait, ça.
Oui, non, mais il y a des endroits où c'est déjà fait, mais c'est les compétences des dirigeants locaux. C'est à eux de se défendre, c'est à eux d'avoir les arguments, c'est à eux de mettre en place les forces vives pour maintenir...
Excusez-moi, mais ça pose un problème. Pour le coup, ça pose un problème d'égalité. Enfin, considérer que si le Nord Aveyron, par exemple, a perdu ses services publics, c'est la responsabilité des élus locaux qui les ont pas défendus, c'est une conception. C'est pour le coup, c'est une conception girondine,
non,
si vous voulez.
Ça n'est pas ce que j'ai dit.
Ah ben, j'ai cru comprendre ça.
Non. J'ai dit que c'est aux élus locaux de se battre pour défendre leurs services publics.
Ils le font,
bien sûr. Mais bien sûr que c'est aux élus locaux.
Mais c'est pas parce qu'on n'est plus chef lieu de canton qu'on va perdre sa poste.
Vous avez
vu le dernier conflit.
Mais sur les services publics, c'est pas la bonne. Excusez-moi, mais c'est pas la bonne clé d'entrée de considérer que c'est aux élus locaux de se battre pour les défendre. Évidemment que les élus locaux doivent se battre. Et globalement, qu'ils soient de droite ou de gauche, en général, ils se battent pour essayer de les défendre. Ce qui n'est pas normal, ce qui n'est pas des critères nationaux qui disent, par exemple, sur un bassin de vie où il y a 1000 personnes, il doit y avoir un bureau de poste. L'important, c'est d'avoir des critères qui organisent l'égalité territoriale, l'égalité de traitement entre tous les citoyens. Et ça doit se faire au niveau national et pas baronnie par baronnie.
Oui, mais les critères ne sont pas forcément justes parce que surtout les critères quantitatifs, on se souvient de la loi sur l'hôpital, HPST, qui indiquait une pharmacie pour 15 000 habitants. 15 000 habitants en Nord-Aveyron, ça fait aucune pharmacie entre Espalion et Saint-Chély-d'Aubrac.
Vous avez raison. C'est pour ça que les critères ne doivent pas être que quantitatifs.
Oui, non, ouais. Il y a des problèmes de besoin des gens en fonction de l'âge, en fonction de leur activité.
On s'est beaucoup éloigné des regroupements et de l'intérêt qui est présent. Si j'ai bien compris, c'est très difficile d'en couper et ça ne sert à rien. Alors cela dit, ça ne sert à rien parce que, en fait, l'arrière-pensée de l'État, c'est de transférer simplement des responsabilités. Mais aucun de vous n'a dit la suite. C'est que si on transfère des compétences à des collectivités locales et quand en plus, vous avez indiqué que c'était pour économiser 50 milliards. Ça veut donc dire que ou bien ces compétences ne seront pas exercées, ou bien les impôts locaux vont considérablement augmenter.
Non, il s'agit surtout d'une question d'efficacité. Je crois qu'aujourd'hui, on peut le dire, aujourd'hui le maillage existe, il convient de l'améliorer. Je veux dire, franchement, on parle de départements, les départements ont été conçus un peu de plus de 200 ans, les cantons également, donc je veux dire qu'aujourd'hui le maillage est à reconsidérer, c'est évident. Après, il ne s'agit pas de transférer la charge sur les collectivités forcément, c'est pas forcément donner plus de compétences non plus aux collectivités locales. C'est simplement, moi je pense, et je suis d'accord avec Monsieur Gros, c'est le principe de clarifier les compétences. Je prends l'exemple, le développement économique. Aujourd'hui, le développement économique peut se traiter. Si je comprends la loi, ce qu'a exprimé le ministre l'autre jour, Madame le ministre, Madame le branchu, c'est chaque collectivité pourra exercer le développement économique, pourra continuer à exercer le développement économique. Moi, je trouve que c'est pas forcément de bon principe. Aujourd'hui, le développement économique, je vous cite, il peut être exercé par la commune, par le PCI, donc la communauté d'agglo ou la communauté de communes, le département l'exerce également, n'ayant pas la compétence à part entière, et la région le fait également, et l'État le fait également. Imaginez les échelons, imaginez la tête d'un chef d'entreprise qui veut se développer, comme on le voit ici même sur le Grand Rodez, et quand il vient nous pousser les portes de la communauté d'agglo, ben il peut pousser aussi bien les portes du département de l'Aveyron, les portes de la région Midi-Pyrénées, l'État peut intervenir. Je veux dire, il y a vraiment un problème de lisibilité évident, et un problème de là, je dis franchement, là, c'est un problème de gaspillage de moyens. À tous les niveaux, on fait du développement économique et on n'a pas vraiment l'action publique efficace. Concrètement, les sommes engagées ne représentent pas les sommes qui devraient être réellement dépensées sur le territoire à l'action économique parce qu'il y a trop d'échelons. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, le vrai fond du sujet, en fait, c'est de clarifier les compétences de chaque collectivité, qui fait quoi, à quel niveau. C'est tout simple, il n'y a pas cherché midi à 14h, excusez-moi pour cette expression, mais j'ai franchement qu'on puisse regrouper autour de la région pôle fort au niveau du développement économique. Que ça ne choque pas du tout et que les régions françaises puissent être leaders du développement économique en général. Ça ne me choque pas. Et c'est ce qu'a énoncé les principes de base qu'a annoncé le ministre la semaine dernière. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir.
C'est bien pour ça, Jean-Philippe, que on se permet de dire que. Moi, je me permets de dire que sur les histoires de compétences de chaque territoire, pourquoi pas, ça peut se regarder, ça pose comme problème. Ce qui veut dire qu'on ne commence pas par ça. on commence pas par clarifier les compétences. On dit qu'on le fera, mais d'abord pour les, on veut d'abord fusionner des collectivités. Et c'est là où il y a quelque chose qui va pas. Il faut commencer par, en effet, parce que comme l'a dit Guillaume, sur les lycées, sur les, la région, sur le côté social du conseil général, par exemple. Aujourd'hui, il y a plus en plus de vieux sur le département. Ce qui fait qu'il a ses charges qui montent, mais en même temps, les finances, elles n'arrivent pas. Donc, et pour ça, il va falloir, ça changera rien, la masse monétaire sera la même. Il faut donc trouver des financements qui correspondent. Et aujourd'hui, là où on mute, c'est sur les financements. Les impôts, il faut revoir tout ce qui est les impôts aujourd'hui dans notre pays. Et tout ça, c'est lié. Et on peut pas faire des petits coups comme ça, il faut arrêter. Et c'est là que nous, on dit qu'il faut passer à une sixième république et regarder sur le fond exactement tout ce qui peut se passer. Il faut réorganiser les institutions françaises.
Mais, pardonnez-moi, voilà. Est-ce que les financements croisés, c'est vraiment un inconvénient? Le maître d'ouvrage qui veut lancer quelque chose, je pense à une collectivité en l'occurrence, il est obligé de commencer par faire la quête et la loi de modernisation d'action publique et d'affirmation des métropoles stipule qu'il faudra qu'il ait 30% de ce qu'il veut faire, qu'il finance lui-même 30% de ce qu'il veut faire. Mais après, qu'il se tourne vers le département, la communauté, la région, est-ce que c'est pas un moyen d'obtenir le consentement de toutes les entités et une cohérence, après tout, parce que les uns et les autres ont une idée de l'aménagement qui doit être fait.
En fait, si vous voulez, honnêtement, Jean-Philippe, il a raison quand il dit que la bonne clé d'entrée, c'est la question des compétences. Si on veut aller au fond, le plus simple serait de commencer par ça. Et quel échelon de collectivité, effectivement, est le plus à même de rendre le service le meilleur aux populations, voilà. Mais si on le prend par cet aspect-là, aujourd'hui, globalement, les compétences c'est pas si mal réparti. Par exemple, moi, je pense que les conseils généraux, par exemple, pour l'action sociale de proximité, je pense que c'est le bon niveau. Et que la région, ça serait trop loin et ça serait plus compliqué d'avoir cette action de proximité. Bon, on peut continuer. Après, sur les financements croisés, la difficulté, c'est que, enfin, moi, je suis pour maintenir les financements croisés, c'est clair. Tant que les choses ne sont pas claires. Pourquoi ? Prenons un exemple. Tant que la loi ne prévoit pas quel niveau de collectivité est compétente, par exemple, pour financer le milieu associatif, l'éducation populaire, l'économie sociale et solidaire, qui est une partie particulière de l'économie, le mouvement sportif, le mouvement culturel. Voilà. Aucune collectivité n'est réellement compétente pour ça, de par la loi. Du coup, s'il n'y avait pas les financements croisés, vous n'auriez pas tout ce qui fait aujourd'hui l'animation dans nos territoires, qui participent au vivre ensemble, au bien vivre, en particulier dans les zones rurales. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, c'est heureusement qu'ils maintiennent le fait que les financements croisés existent. Après, sur par exemple que la région soit chef de file dans le domaine économique, bon, ben, ma foi, ça devient un petit peu comme une sorte d'évidence. Mais après c'est la question des moyens ou allez-y.
Monsieur Brou,
les financements croisés, c'est toujours difficile parce que dans la pêche aux subventions, c'est toujours les plus forts qui gagnent le plus. Et c'est un gros problème. Les grandes entreprises ont les gens qu'il faut pour faire, les petites n'ont pas. Alors s'il faut demander à la communauté de communes, s'il faut demander au conseil général, s'il faut demander à la région, le petit est un peu perdu.
Et oui, s'il y avait 5 portes à ouvrir, on a peut-être plus de chances d'en ouvrir 3 que si on n'a qu'une seule.
En réalité, c'est pas évident du tout. Vaudrait mieux une bonne porte, qui soit la bonne adresse, qu'on ait la bonne information, les bons éléments et qu'on sache pouvoir s'en sortir. C'est toujours difficile. Et chez nous, effectivement, il y a des SAS pour beaucoup de choses et c'est toujours les plus gros qui pêchent le mieux, hein, de toute façon.
Monsieur Bessière.
Non, j'étais en train de réfléchir à ce qu'il disait, mais il y a un élément qui est important, c'est Guillaume qui me faisait penser, c'est que je crois qu'il y a quelque chose qui va déstabiliser tout ça, c'est la mise en place des métropoles. On ne mesure pas aujourd'hui, à mon avis, on ne mesure pas les conséquences de la mise en place de ces métropoles que tout le monde souhaite, etc. Mais quel va être le rôle de la région, par exemple? Moi, je suis pas la région, je sais pas trop, mais avec une métropole toulousaine qui est la moitié de l'emploi, la moitié des richesses produites, etc., etc., la moitié, de la population, quelles conséquences la métropole sur l'ensemble du reste de la région?
Est-ce que ça ne sera pas un trou noir dans l'univers régional?
Et moi, j'ai des vraies questions là-dessus que je me pose. Et ça a été voté maintenant, je crois, par la loi. C'est mis en
confirmé
place.
Par le
confirmé par le constitutionnel. J'avoue que là, ça, c'est un drame. Enfin, c'est pas un drame, c'est un drame. Ça peut devenir, pour des régions qui ne sont pas de la métropole, c'est-à-dire tout ce qui est autour, le Gers, l'Aveyron, le Lot, etc.
Mais
j'avoue que j'ai un gros problème là-dessus, moi.
Gilbert, c'est une question de maillage territorial. Comment on va organiser notre territoire de Paris à la région la plus éloignée? Et donc, moi, je suis pour la métropole, parce qu'à un moment donné, la loi MAPAN dit, voilà, la métropole peut faire un lieu et place du département, pourquoi pas. Mais Gilbert, je veux dire simplement, après, voilà, il faut forcément des pôles forts. Il faut des pôles forts au niveau de l'emploi, il faut des pôles forts au niveau de l'éducation, de l'université, par exemple, des pôles forts au niveau de la santé. Et après, il y aura des pôles secondaires. Nous, on est dans le maillage du territoire sur le département de l'Aveyron, sur le Grand Rodez, un pôle secondaire fort au niveau de la région. Les deuxièmes bassins d'emploi de Midi-Pyrénées, je veux dire, c'est le pôle fort qui s'organise autour de sa préfecture et qui doit à ce moment-là rayonner sur un maillage un peu moins dense, sous les sous-préfectures et ainsi de suite. Et là, c'est le danger. Je rejoins Monsieur Gros tout à l'heure. Le fait du redécoupage des cantons. On va un peu annihiler l'effet du chef-lieu de canton qui existait depuis et qui regroupait des services. Et ça, c'est un peu le danger. C'est le danger que je vois aujourd'hui. Gommer le principe de l'action publique efficace au niveau des chefs-lieux de canton, sans vouloir tout faire, mais avoir une action concrète auprès du public. Voilà.
L'histoire des cantons, tu sais très bien que c'est la suppression des départements, à terme. Entre les métropoles, les agglomérations, les cantons, ils vont disparaître. Le département va disparaître.
Les cantons sont ce qu'ils sont devenus. On a vu quel était le découpage dans l'Aveyron. En parlant de regroupement et de réorganisation des régions, moi je connais les Toulousains, par exemple, qui disent ben, l'arrondissement de Millau, il devrait rejoindre Languedoc-Roussillon, et nous, comme ça, on récupérerait Castelnaudary. Est-ce qu'on peut imaginer, et ma question elle est double, est-ce qu'on peut imaginer que l'Aveyron ou d'autres départements ou d'autres régions se voient découpés, rattachés différemment? Et vous avez parlé tous des cantons, parce que on comprend très bien que quand vous parlez des services publics, vous avez la nostalgie des ponts et chaussées, de la gendarmerie et de la justice de paix, et on peut le comprendre, mais aucun de vous n'a parlé de l'arrondissement. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que des arrondissements se détachent de leur département actuel, et est-ce que l'arrondissement n'a pas un rôle à jouer? J'observe qu'il était à la dimension pratiquement des pays. Qu'on a tous oublié.
Une circonscription plutôt.
En termes de coopération, il y a des départements déjà, des villes proches à l'ouest là-bas, qui sont avec le Lot ou avec. Et ça s'est fait d'une manière très naturelle. Pourquoi faire des choses. J'avoue que.
C'était les pays. Mais de toute façon, les choses ont évolué par le mode de vie que nous avons. Lorsque les départements ont été créés, le Nord Aveyron, une partie du Nord Aveyron avait été rattachée au Cantal. Moi, à cette époque, ils étaient démocratiques et ils entendaient l'avis de la population. Mmh. Et les gens du Nord Aveyron, que ce soit Mur de Barrez, L'Aïeul, ont dit non, nous sommes rattachés depuis plusieurs centaines d'années au Rouergue et à Toulouse, et nous voulons être avec le Rouergue, rester en Aveyron. Tout simplement, il y avait une raison toute bête, c'est que l'hiver, on peut l'éprouver en ce moment, il y a un passage après Lacan ou après Mur de Barrez qui fait que de Mur de Barrez, on n'allait pas, il y a 200 ans, à Aurillac l'hiver. On ne pouvait pas alors qu'on pouvait descendre vers Rodez. Et ils l'ont justifié, mais aujourd'hui, ça n'a plus aucune justification. Les gens de Mur de Barrez, ils vont à Aurillac faire leurs courses et jamais ils n'entendent parler de Rodez. Et quand on va à Saint-Cernin-sur-Rance, qu'on parle à des gens, ils connaissent pas Rodez. Ils vont à Albi. Et Millau, ils sont tournés vers Montpellier. La voiture a changé quand même beaucoup de choses. Les routes ont changé. Donc, les découpages seront forcément un jour, si ce n'est à revoir, à considérer que dans les faits, on est différent d'avant. Non,
Monsieur Ferriès.
Oui, mais non, mais on peut pas exclure le fait qu'il faille à un moment donné, pourquoi pas redécouper les territoires administratifs, à une condition. À une condition, c'est que ça se fasse par la décision volontaire des gens qui habitent sur ces territoires-là. Parce que de toute façon, si ça marche pas comme ça, de toute façon, c'est voué à l'échec. Je peux comprendre que les gens du Calvados, par exemple, se posent la question, pourquoi pas, est-ce qu'ils sont pas plus près de la région Auvergne que Midi-Pyrénées? C'est une question qu'on peut comprendre qui se pose. Mais ce qu'il faut surtout pas faire, c'est prendre les choses à l'envers, et le faire comme le dit François Hollande, dans 10 ans, avec la carotte et le bâton, si vous ne vous regroupez pas, vous aurez une sanction financière. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce monarque qui dit aux élus du peuple et au peuple, si jamais vous ne regroupez pas, vous aurez des sanctions financières. Donc, au bout du compte, vos collectivités auront moins de capacité à rendre le service public aux administrés. Non, ça, c'est une façon... ancien régime, et en tout cas tout sauf démocratique d'aborder ces questions-là.
Et la partie est davantage financier, pas de sanctions.
Oui, mais ça revient au même. Mais si, parce qu'en vrai, ça sera ça, au bout du compte.
Et de même que pour Mur de Barrage, je ne disais pas qu'ils veulent être attachés au Cantal. Je veux dire qu'aujourd'hui, ils vont faire leur course à Aurillac, mais...
Bon, c'est vrai,
est-ce que le gigantesque canton de Sud-Aveyron n'est pas un prémisse de ce genre de détachement?
Non, c'est simplement une organisation territoriale voulue par ceux qui l'ont initié. On peut remarquer que d'un bout du canton à l'autre, il faut à peu près 2 heures de voiture. Donc on redécouvre l'Aveyron, le Sud-Aveyron en automobile. Le futur conseiller général, le conseil départemental, plutôt aura fort à faire avec
ce sera un
duo, un binôme homme-femme. Et donc forcément, non, je pense que ça, franchement, c'est du découpage. On va pas dire charcutage. Je sais pas loin de le penser. Donc on va essayer de s'adapter pour essayer de trouver un nouveau canton, pour essayer de subsister ou d'exister avec de la politique, mais ça c'est la politique politicienne. Quand les cantons aveyronnais ont la proposition de redécoupage des cantons aveyronnais, c'est pas une organisation logique, un maillage logique d'un territoire, simplement il s'agit d'une adaptation par rapport à des conseillers généraux, conseillers départementaux plutôt espérés.
Bah, c'est un redécoupage électoral.
Un redécoupage électoral tout simplement, exactement. Guillaume, tu as raison, on est d'accord sur ce principe. Ouais. Moi, simplement, j'en reviens à mon histoire de maillage, c'est non pas électoral, là c'est de maillage de population, de maillage de comment est organisée une région, comment est organisé un pays, donc j'en reviens à la métropole toulousaine, j'en reviens au sous-pôle donc secondaire que est Grand Rodez, que peut être Millau éventuellement, et les pôles tertiaires que seraient les chefs-lieux de canton qui pourraient rayonner. Un pôle très fort Toulouse, un pôle secondaire très fort Rodez, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on peut rayonner, et moi je vois pas, je n'imagine pas, en clarifiant encore une fois les compétences, qui fait quoi, les routes départementales, c'est le département, la politique sociale, c'est le département. Les lycées, ben, c'est la région, pourquoi pas, on peut mettre notre compétence avec, le développement économique également, et ainsi de suite. Et concernant ce maillage des communes, la commune, c'est aussi, il faut là, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la commune, parce que beaucoup disent, il y a trop de communes françaises, c'est 36 780 communes, il y a beaucoup plus qu'en Allemagne, il faudrait en supprimer beaucoup,
plus
les regroupants.
Plus que dans toute l'Europe.
Oui, peu importe, mais le maire d'une commune de 40 ou 50 habitants, cet après-midi, il a fait du social, il a fait le lien social, il l'a fait quasiment gratuitement. On peut pas dire que ce soit ça, que ce soit sa mairie qui a engendré le déficit de l'État, franchement. Par contre, le maire, il a passé l'après-midi à aller voir une partie d'après-midi ou sa matinée, je sais pas. Et donc, c'est le premier échelon de la démocratie. On va le vivre dans quelques jours. Il va, dans les 304 communes aveyronnaises, vont débattre tous les candidats avec tous leurs projets. Et moi, je pense que c'est important de conserver ce socle, cette base de la démocratie. En tout cas, moi, j'y suis très attaché. Et je crois qu'au-delà de ça, il faut trouver le bon système. Le bon système, moi, je ne crois pas forcément à la disparition du département. Moi, je pense franchement à l'organisation de la République. À l'organisation de la République, donc, c'est clarifier ce qu'on fait, ce que doit faire la collectivité pour tous, quoi, pour être au service de tous, tout simplement. Pas forcément le service public, c'est le service au public, pour le public. Qu'est-ce qu'il y aura demain comme service de santé dans l'Aveyron, comme service de l'éducation dans l'Aveyron? Ça, c'est important aussi. On n'en parle pas. Est-ce qu'il y aura d'université? Est-ce qu'il y aura pas université, est-ce qu'il y aura de... Ça, c'est le défi. C'est le défi qu'il faut que nous, on relève, quoi. Et après, je crois que... Moi, je ne fais pas partie de ceux qui rêvent. Je sais qu'aujourd'hui, l'État, il va pas se désengager, mais il va... pas transférer des compétences, Guillaume, c'est tout simplement réduire la voilure en ce qui concerne les dotations aux collectivités. On le voit, tu es élu à la ville de Rodez, Jean-Albert aussi, vous voyez que cette année, vous avez, je crois, 8% de moins de dotations de l'État.
6 ou 8,
c'est pareil au niveau de Lugla-Priobe, ça sera certainement pareil au niveau de toutes les collectivités aveyronnaises. Donc je crois qu'il faut, aujourd'hui, on est en période de crise, les Français, les Aveyronnaises, les Aveyronnais demandent à faire des efforts, et je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait une vraie action, et je crois que on a tous le syndrome
si je vous suis bien tous les quatre, c'est, pardonnez-moi l'expression, mais c'est entre les métropoles et le découpage cantonal, c'est déjà mal barré.
Sur quoi?
Non, ça dépend. Sur la répartition et l'organisation géographique des collectivités et de la proximité.
Non, ça dépend. La difficulté, les métropoles comme les régions, ils allèguent de la nécessité d'une taille pertinente. Paris, par exemple, est une capitale beaucoup trop petite à l'échelle mondiale pour avoir une taille économique pertinente. Mais c'est pareil pour nos régions. On a des régions complètement trop petites qu'il faut effectivement annexer à d'autres. Et globalement, c'est pas parce qu'il y aura une métropole à Toulouse qu'on peut mourir. Je crois que les futurologues nous disent que dans 20 ans, 85% de la population sera dans des métropoles.
Est-ce que franchement, c'est ça qui va relancer?
Comment?
Est-ce que c'est ça qui va relancer l'économie en
France? Non, ça va relancer la pauvreté. Chez nous, dans nos villages, les paysans vivent bien. Si on prend leurs enfants et qu'on les met dans des métropoles, ils vont aller dans des HLM avec des aides au logement, en cherchant un travail, avec des taux de chômage à 20%, une délinquance qui est importante. Et donc, on va revenir sur le sujet des métropoles. Parce que les futurologues, généralement, ont l'habitude de se mettre le doigt dans l'œil.
On fait du découpage à la calculette. Oui. C'est comme des fois, il y a des penseurs à Paris, à Bercy ou ailleurs. Il a la porte, EDF et tout ça.
Juste avant de donner la parole à M. Sirius, qui me l'a demandé.
Il parle pas.
J'observe que vos remarques sur la métropole et sur le découpage cantonal, on a quand même l'impression que la ruralité est assez maltraitée, Monsieur Sirius.
En tout cas, clairement, l'aspect métropole est de constituer dans les grandes agglomérations des espèces de mastodontes urbains aux compétences renforcées. Il s'agit de ça. Hein. Le fond, c'est effectivement de concentrer les moyens de l'action publique sur ces métropoles-là, dans une idée selon laquelle Philippe l'évoquait un petit peu tout à l'heure. L'idée, c'est de constituer des pôles économiques surpuissants qui puissent jouer leur rôle dans la compétition mondiale et se spécialiser dans certaines niches de production pour exporter et jouer un rôle de compétition, quoi, avec d'autres. Le schéma, c'est les métropoles seront en concurrence avec les autres métropoles mondiales et les zones de seconde zone en région, la ruralité grosso modo, seront en compétition avec d'autres zones équivalentes. Donc, honnêtement, c'est un système qui pouvait s'entendre quand le libéralisme faisait ses preuves en termes de génération de richesse et quelque part de bonheur pour les gens, parce qu'effectivement ça pouvait participer à l'accès au bien vivre pour les gens par l'accumulation matérielle, hein. C'était le cas au 19e siècle. Bon, mais aujourd'hui défendre cette conception là du développement économique, c'est complètement dépassé, hein, parce qu'on sait très bien que ce système de la compétition à tout va, elle aboutit à qui va baisser le plus ses salaires, qui va le plus jouer à la baisse sur le droit du travail et les droits sociaux. C'est ça ce qui se passe dans la compétition économique. Et il y a un autre argument, c'est la catastrophe écologique qui avance, qui fait que c'est d'un autre temps que de mettre comme priorité au développement économique l'aspect être les plus puissants possibles en compétition mondiale et exporter à tout va des produits à haute valeur ajoutée. Voilà. Ne serait-ce que parce que la crise écologique fait qu'il faut arrêter d'imaginer que le développement économique ce soit uniquement exporté à des milliers de kilomètres des marchandises. Voilà. Donc il faut en revenir pour le bonheur des gens, pour l'équilibre des territoires, pour garder des emplois, développement économique sur les territoires et pour lutter contre la catastrophe écologique. Il faut en revenir à des conceptions du développement économique beaucoup plus sobres et beaucoup plus ancrées sur les territoires. Il s'agit plus de relocaliser et de développer des circuits économiques courts que cette fuite en avant dans la compétition mondiale qu'on nous propose avec les métropoles. Puis c'est ça l'idée.
Alors, je voudrais passer au dernier point de la conférence de presse du président. Les régions se verront confier un pouvoir réglementaire d'adaptation. Et là, ça a fait couler beaucoup de paroles et d'encre.
C'est l'adaptation que je comprends. Pas réglementaire, je sais ce que c'est.
Qu'est-ce que c'est qu'une adaptation? Qu'est-ce que c'est qu'une adaptation réglementaire? Et qu'est-ce que c'est que le pouvoir réglementaire? Et est-ce que ça veut dire que la loi sera différente à Toulouse, à Orléans, à Nice
comme
et à Rouen?
Un État, il découpe la tête et l'autre État, il la coupe pas.
Est-ce que c'est réglementaire?
Plus près que nous, en Espagne, c'est ça?
Il s'agit d'États fédéraux.
Peut-être expliquer ce que c'est un pouvoir réglementaire. Hein.
Voilà.
Il y a le pouvoir législatif qui relève des parlements, qui légifèrent, qui fait la loi, qui s'applique à tous. Et ensuite, il y a le pouvoir réglementaire qui aujourd'hui appartient également à l'État, au gouvernement, qui passe par la plupart du temps par des décrets ou des ordonnances. Quand on nous propose de donner aux régions des pouvoirs réglementaires, il s'agit de donner au pouvoir aux régions d'adapter la loi républicaine aux spécificités régionales. Bon, nous on y est opposé à 100%, parce que ça ne peut aboutir qu'à effectivement un développement des inégalités sur les territoires, des compétences à la carte, un éclatement du cadre républicain, et surtout il faut dire que là où c'est pratiqué, ça conduit les expériences sont pas satisfaisantes. C'est le cas par exemple en Espagne. C'est le cas par exemple en Espagne. Prenons la question de l'éducation ou de la santé, où les systèmes se sont adaptés à chaque région. Quelque chose de très simple, c'est depuis le déclenchement de la crise économique en Espagne. Alors avant, peut-être que les régions espagnoles faisaient pas si mal leur mission, en particulier en termes de santé, parce que c'est monté en exergue, y compris par des élus socialistes. Mais du jour au lendemain, quand les régions espagnoles se sont retrouvées prises à la gorge, étranglées financièrement par la crise, qu'elles pouvaient même plus rembourser leurs dettes, etc., évidemment, qu'est-ce qui a porté réellement préjudice aux gens? C'est pas les petites compétences. Mais par exemple, une question comme la santé, quand du jour au lendemain, vous êtes obligé de... vous ne pouvez plus remplir les missions que vous vous êtes vous-même attribuées par le pouvoir réglementaire, ben là vous êtes dans une situation d'irresponsabilité vis-à-vis des gens qui habitent sur le territoire.
Voilà. Alors, ce que vous venez de dire, monsieur Bussière, on a l'impression qu'on s'oriente vers un État fédéral. En plus, on est entouré en France d'États fédéraux. Même la Belgique, on trouve moyen de se découper.
Un pouvoir réglementaire aux régions, ça voudrait dire de fait un État fédéral.
Un État fédéral, oui. Si ça arrive à ça, voilà.
Alors, est-ce qu'on n'est pas en contradiction avec un certain nombre de
constitution
de fois et avec la Constitution?
Non, moi je n'y ai pas contradiction. On est sur un principe un acte, on l'appelle pas acte, de décentralisation supplémentaire, donc que les régions puissent s'adapter en fonction des différents critères régionaux. La région Alsace est différente de la région Midi-Pyrénées, qui est différente de la région PACA, et ainsi de suite.
En quoi?
Parce que d'abord il y a la géographie, tout simplement. La Bretagne est différente de l'Alsace parce que forcément l'Alsace est en périphérie aux portes de l'Allemagne, et la Bretagne n'y a pas cette chance ou ce handicap, parce que ça peut être retourné l'un dans l'autre, donc franchement on peut s'adapter. Tu parlais de l'éducation, Guillaume, je veux dire, quand on met en œuvre des formations au niveau de la région, parce qu'elles tiennent compte des spécificités régionales. Sur le pôle toulousain, on a une grosse spécificité aérospatiale, je veux dire, c'est une chance.
Mais moi je demande l'indépendance, si je suis dans une région qui a du pognon,
l'indépendance.
Comme à Barcelone, là-bas, et les Catalans,
c'est pas demander.
Alors que moi, je suis pour la péréquation des richesses créées en France. Quoi,
c'est,
quand même.
C'est l'action au concret, c'est proche des citoyens. Je trouve que ça, c'est une chance, développer, donner à la région plus de liberté, de responsabilité sur l'emploi, la formation professionnelle, l'apprentissage. Je trouve que c'est collé aux réalités du terrain et à la réalité économique, sans vouloir faire la concurrence à qui que ce soit. C'est ça,
trop théâtre ou t'es naïf.
Je suis très terre à terre, effectivement, et je crois franchement à la possibilité d'adaptation des régions. Je pense qu'il faut que...
Il y a un risque de déséquilibre, que j'appelle la nation France.
D'autant que ça superpose aux dispositions qui sont en train d'être prises sur les langues régionales.
Les Catalans, ils n'ont pas voulu payer pour les autres, les régions pauvres.
Mais on n'est pas en Espagne.
Pourtant, ils sont espagnols.
Nous ne sommes pas en Espagne, nous sommes en France aujourd'hui.
Et les Bretons, qu'est-ce qu'ils ont fait? 52 000 mètres.
Il s'agit d'adapter nos politiques territoriales en fonction de la différente nature.
Si on était tous des bisounours, je vais t'écouter, je l'entends. Sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe.
Surtout que s'il s'agit uniquement d'adapter aux spécificités territoires, tu n'as pas besoin de pouvoir réglementaire pour ça.
Je crois que le mot réglementaire est malvenu. Il n'a pas forcément été écrit comme ça. Et je ne crois pas qu'il faille lui accorder une grande importance.
Ouf, à mon avis, il en a une importante.
Si je suis député, il ne faut pas accorder une grande importance à tout ce qui est...
Ah, c'est le président de la République.
Non, mais...
Le François Hollande, son rêve, c'est de faire que les régions aient un pouvoir fort.
Ah, mais de toute façon, ça serait souhaitable.
Réglementaire.
Non, mais... D'ailleurs, le conseil territorial qui pourrait d'ailleurs, les sénateurs, s'ils sont bande de mou, là, c'est donc... qu'ils ont peur de passer à la trappe sur des trucs comme ça, quoi. Non, la chambre haute.
Il y a une nécessité de moderniser l'action publique, on est tous d'accord. Et je crois que, je veux dire, voilà, c'est à un moment donné, il faut. On pourra s'adapter, c'est.
C'est le prochain train législatif sur l'organisation et la capacité des régions. Après la loi sur les métropoles, on va vers une loi sur les régions. Et dans le cadre de ce qui nous a été dit...
Moi, je pense qu'il faut qu'on règle les problèmes de compétences. Là-dessus, on est d'accord. Ouais. Et puis après, c'est sûr, les impôts, on fait les impôts, le financement des collectivités. C'est trop le bins aujourd'hui pour continuer comme ça. Il faut qu'on a supprimé la TP, on a créé je sais plus quoi. Personne ne s'y retrouve parce qu'on parle qu'ils connaissent pas qui c'est. Sauf que quand il faut qu'ils payent, tu te rappelles l'année dernière à l'agglo quand on a voté la CFE, tu n'en fais pas, ils ont su où il fallait y aller, ceux qui ont été. Non, ils savent les gens où il faut aller. Sauf que on est incohérent, un peu surtout on fait du comme ça là. Et je pense qu'il faut revoir les institutions parce que on a besoin de tout mettre au niveau d'une manière comme tu le dis. C'est pas naïf, donc si tu veux, mais de remettre tout sur la table, de faire une sixième république ou comme vous voulez, mais changer les institutions dans ce qu'elles sont, leur financement et le côté social aussi, parce que ce côté social est écologique, c'est ce que tu voulais dire tout à l'heure. Donc il faut qu'on rassemble tout ça et qu'on ait le courage tous à nos âges. Moi je suis un peu vieux maintenant, mais que les générations puissent se saisir de tout ça, les nouvelles générations. Sinon ils vont se désintéresser complètement dans la politique. Ce qu'on le voit déjà, c'est déjà pas mal. On verra les élections européennes, la participation qu'il va y avoir. Il va falloir se remuer les uns et les autres les fesses si on veut avoir une participation qui pourtant est importante puisque toutes les décisions qui s'appliquaient en France sont décidées pratiquement à Bruxelles, soi-disant. On pourrait en refuser quelques-unes, mais on ne les refuse pas, on applique, puisqu'on fait marcher la boutique. Donc voilà. Non, moi je crois qu'il faut redonner confiance à... les gens, ils sont paumés, les populations, etc. Mais... J'ai un exemple, je siège au SIEDA pour le très haut débit. On parle du très haut débit. Pour la métropole, pas de problème. Orange, il est allé plein pot, et puis il va avoir ça très rapidement. Après, il y a la deuxième zone, c'est nous. Hein, ou l'agglo, nous, Orange, il vient aussi. Hein. Alors, et après, tout le reste, c'est les collectivités locales, donc les impôts des citoyens, qu'il va falloir qu'ils financent ça. Les impôts, je dis bien les impôts, pas la taxe, les impôts nationaux, locaux, etc. Et là, il va falloir que pour aller chez vous, il faudra que vous le payiez, vous payerez quand même l'abonnement après.
Oui.
Ah, d'accord. Vous le payez deux fois. Donc voilà, il y a des choses qui...
De toute façon, si je comprends bien, il se passe sur le très haut débit, ce qui se passe avec les chemins de fer. Hein.
Oui. Ah oui. C'est pour ça que je suis en désaccord avec lui, là.
Bah non. Si on veut un TGV, il a fallu que tout le monde crache au bassinet. Et on l'aura peut-être pas.
La différence, c'est que les lignes de chemin de fer...
Et en attente, on n'a pas de train.
Elles ont été payées par l'État. Qui a mis en place les rails, qui les ont entretenus au cours des décennies.
Et c'était nationalisé.
Assez peu pour le Sud-Ouest, décennies.
Non, et du coup, si vous voulez, le principe du train, c'est que les lignes qui étaient très rentables, par exemple Lyon-Paris, faisaient beaucoup de bénéfices, qui permettaient, par le service public de la SNCF, de redistribuer quelque part pour pouvoir faire fonctionner les lignes de seconde zone qui allaient être très déficitaires.
Tarifaires.
Donc c'était un système, pour le coup, de péréquation de solidarité républicaine. Alors, justement, c'est l'inverse de ce que disait Jean-Marie Bessière.
Mais sur problématique que vous voulez défendre.
Ah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Ce qu'il faudrait faire pour le très haut débit, c'est faire ce qu'on avait fait au début du siècle dernier pour les trains.
Et pour le DF, pareil.
Et continuer à l'entretenir mieux qu'on l'a fait pour les voies ferrées.
Bien exactement.
Bien sûr.
Alors, sur cette... toujours sur ce pouvoir réglementaire des régions, sur les décompositions, parce que moi, j'ai cru comprendre quand même que certains d'entre vous finissaient par avoir des doutes républicains sur la nature de la République et la nature de la France, M. Gros.
Non, moi, je vois la France comme elle est. C'est-à-dire toujours jacobine et en même temps avec des désirs de décentralisation et en même temps des modifications souhaitées et des élus qui s'accrochent aux branches pour que rien ne bouge. Donc en fait c'est tout change pour que rien ne change, on continue comme ça. Alors Sarkozy avec ses petits bras musclés, lui il prenait les choses à bras le corps et à la sortie on s'est aperçu que rien ne s'était passé. Hollande qui est mou mais qui a quand même... pas une mollesse intégrale, on peut se rendre compte, dernièrement, a fait avancer un peu les choses.
Ah, pour piloter un scooter, il faut de l'équilibre.
Fait avancer les choses mollement, mais bon, on peut espérer qu'elles vont avancer. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont pris au collet, peut-être qu'ils vont faire des choses. Mais comme les plus grandes féodalités locales sont socialistes, c'est pas évident non plus.
Pas en Aveyron, quand même.
Permettez-moi quand même de...
Non, mais il y a quand même 22 régions sur 22 qui sont détenues par le Parti Socialiste, on peut pas dire, voilà, donc, je veux dire, aujourd'hui, quand François Hollande, le président de la République, met en marche une réforme vers les régions, je pense que, voilà, il a l'opportunité politique d'aller jusqu'au bout de ses idées. Moi, ce que je vois, c'est, franchement, aujourd'hui, j'en reviens à mes 83% de Français qui ne comprennent pas, ce que fait la région, le département ou la commune, donc ça c'est le premier point. C'est la dette publique, c'est les finances publiques qui sont complètement aujourd'hui exsangues. C'est vrai qu'aujourd'hui on a un principe où c'est on passe tout par Paris, mais aujourd'hui je crois qu'on a un vrai, et ça mettra du temps. La décentralisation c'est 82, c'est pas l'antiquité, c'est il y a 32 ans, je veux dire, c'était les lois de fer. Au début on a commencé à avoir, par contre il faut vraiment, moi c'est pour conclure, c'est vraiment, j'appelle tous mes voeux, cette clarification, elle est nécessaire, elle est obligatoire. On n'aura pas l'argent nécessaire pour mettre à tous les niveaux de l'action publique à tout vent. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Et moi, je crois que la réforme, moi, je ne vais pas critiquer d'emblée tous les bouts de la réforme. Je crois qu'il y a du bon et qu'il faut aller encore plus loin et être plus, beaucoup plus réaliste.
Alors, on va laisser le conseiller régional conclure, monsieur Sérias.
Voilà.
Ah, je sais pas s'il faut conclure. Moi, j'aborderai un point quand même. Vous disiez, espérons que François Hollande aille au bout des propos et des engagements qu'il prend dans la conférence de presse. Je veux quand même vous dire que ça pose un sacré problème démocratique. Ça pose tout simplement le problème que rien de ce qu'il a annoncé là, il ne l'avait annoncé au moment de son élection comme président de la République. Ça pose un problème démocratique évident. Normalement, le fonctionnement, c'est qu'on propose au peuple français des projets de changement de société et on essaie de les appliquer derrière quand on est élu. Mais en général, c'est ce qu'on fait. Là, non, il fait l'inverse. Il n'avait rien annoncé dans sa campagne. Au contraire, il disait on reviendra sur les aspects de la réforme Sarkozy. En gros, il va beaucoup plus loin que ce qu'on proposait de faire Sarkozy. Il avait dit aux Français on va faire le changement. Finalement, qu'est-ce qu'il fait? Il leur met la TVA, bim, ça fait 400 euros par année pour un couple avec deux enfants. Donc voilà. Donc moi, je veux mettre l'aspect démocratique en avant. Et deuxième aspect, c'est celui de rappeler qu'à un moment donné, le prétexte qui a avancé pour tout ça, c'est de dire que la dette du pays... c'est fini, c'est ça?
Non.
Donc, que la dette du pays devient complètement insurmontable et dire qu'à un moment donné, on peut se poser aussi la question. Quand depuis 20 ans, on voit le nombre de cadeaux fiscaux qui étaient faits aux plus riches de ce pays, aux plus grandes entreprises de ce pays, est-ce que la bonne question serait pas d'abord de faire une grande réforme fiscale pour prendre l'argent où il est parce que notre pays n'a jamais été aussi riche? Commencer par ça avant de se poser les questions des économies de bout de chandelle qu'on nous propose dans cette réforme territoriale.
Ça sera le sujet d'un autre table ovale sans ellipse. Ce soir, Claude Devezin réunissait Jean-Albert Bessière du Parti communiste français, Christian-Emmanuel Gros pour le Modem, Jean-Philippe Sadoul pour l'Union démocrate indépendant et Guillaume Cérès pour le Parti de gauche. Je vous rappelle que cette émission est rediffusée le dimanche à 11h et que vous pourrez l'écouter d'ici un quart d'heure ou 20 minutes en podcast sur votre internet. À bientôt, la prochaine fois ce sera à Villefranche, le dernier mardi du mois de février.